Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos pour Il est là, le bonheur. Bien, pour cette émission d'aujourd'hui, cette émission du mois, je vais vous parler dans un premier temps de philosophes et de bonheur, les différents points de vue de différents philosophes sur ce fameux concept de bonheur qui me tient tant à cœur. Et puis après un premier titre que j'ai redécouvert dernièrement, ce fabuleux duo entre Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, eh bien je vous parlerai ensuite de petits bijoux locaux, notamment dans mes découvertes de ce merveilleux pays catalan, avant un joli conte, et puis un dernier titre où je vais partager avec vous aussi un de ces grands musiciens que j'adore depuis mon enfance, qui est Carlos Santana avec Samba Pati. Et voilà, je vais vous laisser avec les premières réflexions sur les philosophes et le bonheur. Chers auditeurs, lorsque j'ai abordé ma propre définition du bonheur dans l'émission Bonheur Chronique en 2019, ben je me suis en effet confronté à la difficulté de pouvoir définir de façon précise ce concept aussi large, à la fois aussi personnel qu'universel. Alors malgré tout, dans le passé, de nombreux courants de pensée philosophiques ont tenté de déterminer ce qui nous rend le plus heureux dans notre vie. Alors, le bonheur a été abordé par beaucoup de philosophes, qu'ils soient plus récents comme Kant ou plus anciens comme Aristote. Chacun a essayé de donner sa propre définition du bonheur, ce concept vraiment abstrait, mais qui pourtant a été et restera une source d'inspiration et d'aspiration à une meilleure vie pour beaucoup d'entre nous. Alors je suis tombé sur un article dernièrement qui donnait justement des définitions du bonheur suivant les différents philosophes, les grands philosophes parmi les plus connus. Je vais commencer par le grec Aristote, qui nous dit « Le bien humain réside dans une activité de l'âme conforme à la vertu. » Alors en effet, pour Aristote, ce philosophe grec de l'Antiquité, le bonheur est le souverain du bien, le but ultime de toutes nos actions. Le bonheur repose donc sur la conformité à la raison et à la vertu. Cependant, la vertu ne suffit pas au bonheur, puisqu'Aristote met en avant le fait que l'homme a besoin d'avoir un corps en bonne santé, ainsi que des biens extérieurs. Cela nous amène à un autre philosophe grec, Épicure, qui lui nous dit « Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. » Épicure, ce philosophe grec du courant de l'épicurisme, distingue les différents plaisirs. Le plaisir qui apporte souffrance et douleur est celui qui apporte la paix de l'âme. Selon Épicure, il faut que l'homme sache différencier ces deux plaisirs pour être heureux. Alors, ça vous rappelle probablement une émission sur le plaisir hédonique et le plaisir eudémonique, ce plaisir hédonique qui est fait de plaisir simple, de la satisfaction de nos cinq sens, mais qui est vite satisfait et qui demande de renouveler la source du plaisir pour continuer à avoir du plaisir. Donc un bonheur de courte durée et qui peut en effet déboucher sur plus de d'insatisfaction finale, plus de douleur, plus de souffrance. Tandis que le plaisir eudémonique, lui, est fait en effet d'efforts pour apprendre, pour l'apprentissage, donc, mais aussi pour développer de nouvelles compétences. Et finalement, ce plaisir-là est beaucoup plus long, beaucoup plus durable, beaucoup plus profond et nous amène à cette joie profonde qu'on appelle le bonheur. Alors, si on change de continent, on va quitter la Grèce pour aller vers la Chine avec Confucius, qui, lui, pensait que tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Ce sage chinois a, lui aussi, apporté sa vision du bonheur. Le confucianisme inspire aujourd'hui de nombreux livres, de nombreux blogs ou émissions, mais il s'agit tout compte fait de savoir apprécier le moment présent plutôt que de voir le bonheur comme un but à atteindre. Savourer l'instant présent. Ah ben, ça rappelle aussi Lao Tzu, encore un autre sage chinois, qui nous disait « Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Et si vous êtes en paix avec vous-même, vous vivez dans le présent. » Lao Tzu est considéré comme le père fondateur du taoïsme. Ce sage chinois conseille à tout homme de vivre dans l'instant présent, sans se soucier de ses actes passés ni de ceux futurs. Il s'agit concrètement de profiter des joies de la vie, paisiblement. Alors, de façon moins paisible, c'est ce que nous apprennent les enfants, mes petits professeurs, comme je les appelle, notamment à l'issue des ateliers du bonheur que j'organise pour les enfants. Ils nous rappellent combien il est important de bien savourer chaque moment présent, l'instant du présent. Les enfants sont rarement projetés dans un passé idéalisé. On entend rarement un enfant nous dire « Oh là là, quand même, la vie, c'était mieux avant ». Et puis, ils sont aussi rarement dans le futur. Le futur, pour eux, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est impalpable. On entend rarement des enfants qui nous disent « Moi, plus tard, je voudrais être ceci ou cela ». Il y en a quelques-uns, mais voilà, ils sont plutôt dans l'instant présent. Et le présent est un vrai cadeau, bien sûr, comme disait Deepak Chopra. Alors, on change de nouveau de continent et on revient vers le continent européen avec Emmanuel Kant. Kant nous disait « Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison ». Alors pour Kant, ce philosophe allemand du XVIIIe siècle, la notion de bonheur est la satisfaction des besoins et des désirs. Donc on reste très très proche chez lui du bonheur hédonique, finalement de l'hédonisme, qui consiste en effet à satisfaire ses besoins et ses plaisirs pour se considérer heureux. Alors on dit aujourd'hui que en effet, cela contribue, d'après les dernières études sur le bonheur, cela contribue à 70% de notre bonheur. Mais on voit bien qu'on est loin du 100%, puisqu'on a besoin aussi d'un bonheur eudémonique, lui, construit sur le plus long terme. Alors, que nous disait un autre philosophe allemand du même siècle, du 18e, Arthur Schopenhauer? Schopenhauer disait « Le bonheur positif et parfait est impossible ». Il faut absolument s'attendre à un état comparativement moins douloureux. Alors, ouais, il n'est pas très optimiste, notre ami Arthur. Donc, Schopenhauer, pour lui, la satisfaction des désirs ne s'identifie pas à la tranquillité. Pour ce philosophe, la quête du bonheur est donc une perte de temps, puisqu'il s'avère introuvable. On va passer maintenant à un Britannique, John Stuart Mill, moins connu que les du grand public, on va dire, que les autres philosophes, mais qui nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit « Les actions sont bonnes ou mauvaises dans la mesure où elles tendent à accroître le bonheur ou à produire le contraire du bonheur. » Ce philosophe et économiste britannique du 19e siècle assimile l'idée du bonheur à une action utile. Pour lui, le bonheur, c'est la somme de bonheur totalisé pour le plus grand nombre de personnes. Et donc, on se rapproche avec Mill de cette notion de petit bonheur, aussi cette notion de don de soi, de générosité, que vivent très bien des personnes qui participent à des associations caritatives, à des clubs-services, et qui se rendent compte combien, justement, plus on donne, et finalement, plus on reçoit. Et que ce temps précieux, passer à s'occuper des autres, de ceux qui souffrent, des plus démunis, des différents, eh bien, c'est du temps aussi pour nous. C'est aussi quelque chose qui nous fait du bien. Et toutes les études de neurosciences aujourd'hui arrivent aussi à la même conclusion. Plus nous sommes généreux et plus nous vivons longtemps en bonne santé. Donc, c'est bon de donner pour celui qui reçoit. Et c'est bon de donner pour celui qui donne. Allez, on va finir avec un philosophe différent, encore un philosophe allemand, mais du 19e siècle, qui nous dit « Qu'est-ce que le bonheur ?» C'est Friedrich Nietzsche. Nietzsche nous dit, qu'est-ce que le bonheur ? C'est le sentiment que la puissance croit, qu'une résistance est en voie d'être surmontée. Donc pour lui, la vie ne tend pas au bonheur. En effet, selon lui, la vie est une énergie qui pousse tout être vivant à étendre son pouvoir. Elle est donc à la fois force créatrice et destruction aussi. Mais je ne peux pas parler de bonheur et de philosophie sans aborder mon philosophe préféré et celui pour lequel le bonheur a une place centrale dans son œuvre. Eh bien, c'est Spinoza. Pour Spinoza, chercher à être heureux est l'essence même de l'homme. L'homme heureux de Spinoza exerce la réciprocité et recherche le bonheur pour les autres autant que pour lui-même. On a avec Spinoza une version altruiste aussi du bonheur et pas auto-centrée. Le bonheur de l'homme résulte dans l'expression de son essence. Pour Spinoza, l'essence même de l'homme est le désir d'être heureux, de bien vivre, de bien agir. L'homme dont l'essence est le désir a pour vocation la joie d'être et d'agir. L'homme a ainsi le pouvoir de gouverner son désir par la réflexion, ce qui lui permettra d'accéder à la félicité en le rendant libre et autonome. La félicité peut devenir béatitude, c'est-à-dire une joie parfaite et permanente. Voilà une très belle définition du bonheur. Je me l'approprie. Et vous comprenez pourquoi j'aime Spinoza.
A stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on side, snow light in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, wobbling of a meadowlark, moonlight in Vermont. Cables they sing down the highway and travel each bend in the road.
People who meet in this romantic setting, so hypnotized by the lovely summer breeze,
Eh bien, dans une séquence inversée par rapport aux précédentes émissions, je vais maintenant partager avec vous le plaisir d'habiter cette nouvelle région pour moi, venue de Sartrouville, ce très beau pays catalan, et de vous parler en particulier d'une ville qui est Collioure. Mais auparavant, d'abord partager une réflexion qui est faite tout naturellement lorsque on échangeait, mon épouse et moi, avec une femme charmante, Pascal, qui s'occupe de la boutique de l'office de tourisme ici à Saint-Cyprien, et qui nous faisait remarquer combien on avait la chance d'habiter ce merveilleux lieu, puisque de nombreuses personnes attendaient, patientaient pendant quelques fois plusieurs mois, voire des années, avant de s'offrir le luxe d'y passer quelques jours, et que nous avions ce plaisir, ce bonheur d'y vivre et de pouvoir mesurer à quel point, en effet, ici, tout était beau et harmonieux et calme et sûr. Autant d'éléments qui font le plaisir de vivre ici à Saint-Cyprien et plus globalement dans cette région. Alors, revenons sur Collioure. Collioure est un port qui était très connu pour ses anchois dans le passé et qui aujourd'hui est une petite ville très artistique, très touristique, avec deux jolies criques, un port, un fort qui domine la mer Méditerranée, une église très ancienne avec une forme particulière, et puis des quartiers qui sont faits de maisons colorées, très agréables à vivre, à des petites rues pleines de boutiques d'artistes et d'artisans, un très joli lieu à voir, à visiter, avec des restaurants qui tournent bien sûr beaucoup avec le tourisme, mais qui proposent des menus vraiment intéressants et très très bons, délicieux, voilà, qui visent pas forcément une clientèle de passage, mais qui, comme ici dans la région, voilà, sont plutôt dans une offre de plats très goûteux, très copieux, très agréables, avec une palette gustative très 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 large, où vont dominer bien sûr les poissons, on est au bord de la Méditerranée, mais où on peut trouver aussi d'autres plats plus ou moins typiques. Donc voilà, pour Collioure, Collioure, c'est vraiment un gros gros coup de cœur que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, tout simplement parce que venant au mariage de mon neveu, eh bien, j'ai eu la chance qu'on me prête un appartement à Collioure le temps de cet événement. Et j'ai pu vraiment découvrir à travers Collioure l'ensemble de la région. Collioure, voilà, est environné de montagnes. On est tout proche de la frontière espagnole. Entre Collioure et l'Espagne, il n'y a que Portvendres, Banyuls et Cerbère, trois villes. Et surtout, tout autour, eh bien, ce sont des montagnes et des collines qui sont en espalier avec des vignes merveilleuses, voilà, qui donnent de très très bons vins. Les vins de Collioure sont aujourd'hui extrêmement réputés. Et aussi, bien sûr, on est dans la région du Banyuls. Et donc, bon, on peut à la fois goûter le vin, mais goûter beaucoup de spécialités autour de ce vin. Donc voilà, donc. Collioure, c'est une redécouverte continuelle. C'est-à-dire, vous pouvez aller 10 fois dans la ville, vous redécouvrez toujours quelque chose de nouveau, parce qu'il y a de nombreuses petites ruelles, parce qu'il y a des ambiances différentes, parce que suivant les saisons et la couleur de l'air, on est ici dans un endroit qui est tout à fait propice, à la balade aventureuse, au gré de ses envies et au gré de ces découvertes hasardeuses. Collioure, donc, un port catalan, un village de pêcheurs, c'est toujours le cas, un gros patrimoine médiéval, on peut visiter aussi un fort qui domine la mer, et puis des couleurs, voilà. Donc, on retrouvera, comme je vous l'ai dit, les couleurs ensoleillées de toute cette côte méditerranéenne. On l'appelle la perle de la côte vermeille, voilà l'autre nom de Collioure. Ce petit paradis des Pyrénées orientales vous permettra de vous promener, de vous aventurer dans ces petites ruelles. Énormément de ruelles piétonnes, on peut vraiment y circuler en toute tranquillité. Beaucoup d'architectures différentes, évidemment, Collioure a été occupée au fil des siècles par différents envahisseurs. Et donc, vous retrouvez beaucoup d'architectures encore très présentes. Beaucoup de maisons fleuries, beaucoup de façades colorées, une enceinte médiévale qui nous rappelle le passé historique de cette ville et le besoin de protéger cette perle. Et puis, une balade au bord de l'eau qui est tout à fait possible. C'est aussi un joli port de plaisance. Hein, si vous possédez le permis côtier, vous pourrez aussi partir des ports environnants et venir faire un petit tour sur le port de Collioure. Le matin, on peut voir les pêcheurs qui reviennent. Et puis, c'est aussi des animations pour tous, pour les adultes comme pour les enfants. Une petite ville qui est toujours pleine de surprises. Nous, on y a vécu dernièrement les recherches de Pâques en remontant au-dessus de la ville près d'une ancienne abbaye, l'abbaye Sainte-Marie de la Consolation. Et puis des jeux, un peu des jeux médiévaux pour les enfants et un marché riche de produits locaux. Eh bien, je vous engage à mettre Collioure sur votre liste de petites jolies villes à visiter lors de vos prochains voyages, notamment dans les Pyrénées orientales. Mais maintenant, c'est l'heure du conte. Un petit conte avec une belle morale qui nous parle d'une trappe de souris. Et le conte du jour s'intitule « La trappe à souris ». Une souris regardait un jour à travers un trou dans un mur. Elle vit un paysan et sa femme en train de déballer un paquet. Quelle nourriture pouvait-il bien contenir ? Mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il s'agissait d'une trappe à souris ! Fuyant vers l'arrière de la ferme, la souris criait de tous côtés. « Il y a une trappe à souris dans la maison ! Une trappe à souris dans la maison !» Le poulet caqueta, leva la tête, se gratta le dos et dit « Excusez-moi, madame souris, je me rends bien compte que c'est une grande inquiétude pour vous, mais ça ne me regarde pas, que voulez-vous que ça me fasse ?» La souris se tourna alors vers le cochon.
« Oh, je suis désolé, madame souris, la seule chose que je peux faire pour vous est de prier. Soyez assuré que je vous porte dans mes prières. »
La souris se tourna enfin vers le bœuf. Celui-ci se moquait de la souris.
« Oh là là, madame souris, mais c'est terrible, une trappe à souris. Mais je suis gravement en danger, au secours, n'est-ce pas ?»
Finalement, la souris s'en retourna à la maison, la tête basse, et découragée d'avoir à affronter seule la trappe à souris du fermier. Dans la nuit, on entendit un bruit dans la maison qui ressemblait à celui d'une trappe à souris se refermant sur une souris. La femme du paysan s'en alla voir ce qui avait été pris. Dans la nuit, elle ne vit malheureusement pas le serpent venimeux dont le bout de la queue avait été pris dans la trappe. Le serpent mordit la femme du paysan. On dut partir à l'hôpital. La femme revint avec de la fièvre. Or, comme tout le monde le sait, il est fortement conseillé de faire boire à quelqu'un qui a de la fièvre une bonne soupe au poulet. Le paysan prit donc sa hache et coupa le cou du poulet. Malheureusement, la maladie continua. Et beaucoup de gens vinrent pour garder la malade. Le paysan dut tuer son cochon pour nourrir tout le monde. Finalement, la femme mourut. Et le paysan dut abattre son bœuf pour nourrir les personnes venues pour l'enterrement. La petite souris surveillait tout ce va-et-vient de par la fente du mur, en ressentant une grande tristesse. Ainsi donc, la prochaine fois que vous entendrez dire qu'une de vos connaissances est aux prises avec un problème qui ne vous concerne pas, souvenez-vous de la trappe à souris. Lorsque l'un des nôtres est menacé, nous sommes tous en danger. Nous sommes tous impliqués dans ce voyage qu'on appelle la vie. Ayant l'œil ouvert sur nos proches et faisons un effort pour nous encourager mutuellement. Eh bien, c'était Il est là, le bonheur, la nouvelle émission sur le bonheur sur Radio Axe. Alors, à très bientôt, car où que vous soyez, il est là le bonheur. Et en attendant la prochaine émission, soyez heureux.